Donc aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Sacrement avec l'année eucharistique qu'avait voulu Jean-Paul II, et c'est au cours de cette année qu'il a quitté cette terre. En proposant à l'Église d'entrer dans une année eucharistique en 2004-2005, notre pape Jean-Paul II a donné une lettre apostolique, Mane nobiscum domine en latin, Reste avec nous, Seigneur, en français, titre qui fait allusion à l'épisode de l'Évangile selon Saint Luc, où Jésus ressuscité apparaît à deux disciples découragés sans qu'ils le reconnaissent. Il leur explique que la passion et la résurrection étaient annoncées dans les Écritures juives au sujet du Christ et qu'elles sont maintenant accomplies. Arrivé à Emmaüs, Jésus fait semblant de vouloir aller plus loin. Les deux disciples l'invitent alors en lui disant « Reste avec nous, Seigneur ». Au cours du repas qu'il accepte de prendre avec eux, ils vont le reconnaître au moment de la fraction du pain. C'est donc en contemplant ce passage évangélique, un peu comme on contemple une icône, que Jean-Paul II nous avait invités à entrer dans l'année eucharistique. Après avoir rappelé quelques étapes des dernières années, des années donc qui ont précédé ce don de l'année eucharistique, pour nous permettre de mieux saisir l'importance que le pape attachait à cette année, nous contemplerons avec l'aide de la lettre qu'il a donnée la rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus ressuscité, le bon pasteur plein de sollicitude, dont le cœur sacré est brûlant d'amour pour nos âmes, et qui a voulu ce prodige de l'Eucharistie pour mettre le feu de l'amour dans nos cœurs et dans le monde entier. Nous lirons cet évangile, puis nous nous arrêterons sur quatre points. Premièrement, le début de la rencontre, les Écritures expliquées sur le chemin. Deuxièmement, l'accomplissement de la rencontre, la contemplation, avec ils le reconnurent. Troisièmement, l'idéal de communion, la ferveur des premiers témoins, notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Quatrièmement, l'urgence du témoignage, ce qu'on a reçu, on ne peut le garder pour soi, il faut le partager avec toutes les valeurs que l'Eucharistie exprime. Pour mieux comprendre l'importance que Jean-Paul II a attachée à cette année eucharistique, il est bon de revoir avec un peu de recul certaines étapes marquantes de l'histoire de ces 26 années de pontificat qui forment un tout cohérent. Le pape a tourné le regard de l'Église vers le jubilé de l'an 2000, très tôt, après son élection, comme successeur de Pierre. Le cardinal Wyszynski lui avait comme prophétisé « Si le Seigneur t'a appelé, tu dois conduire l'Église au seuil du troisième millénaire. » L'activité du pape pour la préparation de ce jubilé de l'an 2000 a été colossale. Il a fermement guidé la barque de l'Église dans la vérité de la foi en donnant des encycliques extrêmement riches, le catéchisme de l'Église catholique. Il a voulu réunir en synode extraordinaire les évêques pour chaque continent, l'Afrique en 1994, l'Amérique en 1997, l'Asie en 1998, l'Océanie la même année et l'Europe en 1999. 4 années avant l'an 2000, il a lancé une préparation plus immédiate à l'échelle de toute l'Église et du monde entier, avec 3 années centrées sur la Sainte Trinité. 1 année pour Dieu le Père, 1 année de l'Esprit-Saint et 1 année du Fils. L'année du jubilé de l'Incarnation a été vécue comme un grand moment de grâce, ouvert de manière très large. En commençant l'année 2001, le pape a alors insisté sur l'importance du jubilé comme une borne de laquelle on repart. Repartir du Christ, voilà le programme de l'Église en marche pour le troisième millénaire. Repartir du Christ et pour cela contempler le visage du Christ, le visage ensanglanté de la Passion et le visage du Christ ressuscité. Le jubilé n'avait duré qu'un an, mais la contemplation du visage du Christ devait durer et transformer nos vies. Pour contempler ce visage, Jean-Paul II indiqua un moyen excellent, le rosaire, autrement dit le chapelet, qui a l'avantage de contempler avec la Vierge Marie. C'est si important cette prière avec la Vierge Marie que Jean-Paul II a décidé de vivre 1 année du rosaire d'octobre 2002 à octobre 2003, le mois d'octobre étant le mois du rosaire. Rien d'extraordinaire en fait, mais cela devait vivifier notre prière de contemplation des mystères du Christ. Il ajouta à ce moment-là les mystères lumineux. Et c'est au cœur de cette année du rosaire qu'il a donné une encyclique remarquable, Ecclesia de Eucharistia vivit, en latin, l'Église vit de l'Eucharistie, en français. En effet, le cinquième mystère lumineux couronne ces nouveaux mystères. C'est le mystère qui nous fait contempler l'institution de l'Eucharistie. Ou contempler avec plus d'éclat le visage du Christ, si ce n'est dans l'Eucharistie, où le Christ est présent d'une présence vraie, réelle et substantielle, par manière d'excellence. Comment ne pas penser au songe de Don Bosco, où il voyait le bateau de l'Église s'amarrer à deux colonnes, une colonne surmontée de l'hostie, donc de l'Eucharistie, une autre, un peu plus petite, surmontée de Marie, représentée comme Marie auxiliatrice, comme secours des chrétiens. Nous en venons à cette année et nous commençons donc en lisant l'Évangile qui nous parle des disciples d'Emmaüs. Le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Donc, voyons maintenant le début de cette rencontre. Jésus explique aux deux disciples les Écritures sur le chemin. Nous pouvons mettre ce moment en parallèle à chaque messe avec la première partie qui est une explication des richesses des mystères du Christ avec deux lectures le dimanche et un psaume, et enfin l'Évangile. Pour aider à saisir l'intérêt de ces lectures et ce qu'elles impliquent pour nos vies, l'Église demande qu'un prêtre ou un diacre fasse une homélie. ou un sermon. Il s'agit de refaire ce que Jésus a fait lui-même, partir des Écritures et montrer que Jésus est le Messie, qu'il devait souffrir beaucoup avant d'entrer dans sa gloire. Saint Jérôme, un grand traducteur de la Bible en latin au 5e siècle, disait « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Jean-Paul II nous proposait de faire une vérification de notre relation à l'Eucharistie, de sortir de la routine. Il indiquait qu'il ne faut pas se satisfaire que les lectures soient proclamées dans une langue compréhensible. Il faut nous demander aussi comment sont-elles reçues, quel profit en tirons-nous. Notre Saint-Père nous disait que la préparation préalable, l'écoute recueillie et le silence méditatif sont nécessaires pour que la parole de Dieu touche la vie et l'éclaire. Cela ne peut pas se faire seulement à la messe. La préparation préalable pourrait consister à prévoir un temps dans la semaine, par exemple le samedi soir, pour lire les lectures du dimanche suivant. L'écoute recueillie, elle, doit se faire surtout à la messe. Pourquoi recueillie ? Pour préciser que l'écoute doit éviter que la parole entre par une oreille et sorte par l'autre. Ou, comme la parabole l'indique, le grain semé sur le chemin que les oiseaux viennent manger. Il faut écarter autant que possible nos soucis habituels pour être bien réceptif. Et enfin, le silence méditatif. La messe doit en comporter quelques-uns, mais comme elle doit être une source pour notre vie, il faut savoir prendre des temps de silence méditatif chez soi pour repenser aux lectures et aux sermons. Un bon réflexe serait de demander à l'Esprit-Saint la grâce de retenir au moins une idée qui puisse toucher notre vie et l'éclairer. Et pourquoi pas la noter pour y repenser plus souvent dans la prière sous le regard de Jésus et de la Vierge Marie. Deuxièmement, l'accomplissement de la rencontre, la contemplation. La rencontre des disciples d'Emmaüs avec le Christ ressuscité s'est faite par étapes. C'est à la fraction du pain qu'ils l'ont reconnu, et ce geste a un rapport étroit avec l'Eucharistie. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Devant le mystère de l'Eucharistie, nous aimerions que nos yeux s'ouvrent pour voir Jésus et le reconnaître. Mais pour nous, sur cette terre, c'est le mystère de la foi. Il nous faut vivre de la foi, non dans la claire vision, nous dit saint Paul, la foi sans voir et souvent sans sentir du tout. Jean-Paul II nous invite à ne négliger aucune dimension du mystère. Ce mystère, nous le vivons comme un repas amical, ainsi qu'un repas sacré. Repas amical. Le sens de la convivialité est inscrit dans la structure de la messe. C'est le rassemblement des enfants de Dieu en une famille. Nous nous rassemblons en nous mélangeant, en priant les uns pour les autres, en partageant les joies et les peines. Repas sacré. Il faut rappeler cependant que le repas eucharistique, en premier lieu, a un sens profondément sacrificiel. Il doit donc être bien célébré, avec une attitude religieuse qui permet à l'âme de s'unir au sacrifice du Christ. Pour souligner cet aspect d'une manière plus concrète, il est recommandé de se mettre à genoux autant que possible. Notre pape appelait à savoir trouver une attitude aimante, faite de gestes de fidélité à celui qui est présent. Nous pouvons nous rappeler aussi l'attitude de saint Jean-Paul II pour la dernière fête Dieu, ses forces d'abandonner, donc il ne pouvait pas être à genoux pendant toute la procession comme il le faisait lorsqu'il était plus jeune. Et on lui avait donc prévu un siège sur la Papa Mobile pour la procession dans les rues de Rome. Mais il avait supplié ses collaborateurs de le laisser se mettre à genoux. Il a tout fait pour y arriver, mais il a dû se résoudre au fait que ses genoux ne pouvaient plus le porter. Il a dû se rasseoir. Mais on voyait combien cela lui coûtait de ne pas avoir l'attitude juste qui convient devant notre Seigneur. La foi, nous dit-il dans le document Reste avec nous, Seigneur, nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même. Il nous appelle à avoir une vive conscience de la présence réelle du Christ, un très grand respect. Pour contempler le mystère du Christ, une messe ne suffit pas. La voie privilégiée est celle qui consiste à suivre avec fidélité le développement de l'année liturgique. Ainsi, dimanche après dimanche, on parcourra la vie du Christ de sa naissance à sa Pâque, puis jusqu'à l'envoi de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, et nous approfondirons son enseignement dans la suite de l'année. Troisièmement, la communion. Communion avec Jésus. Les disciples ont dit « Reste avec nous ». Jésus fait plus, il va rester en nous. Communion, en latin, veut dire « union avec ». Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. Jésus veut une intimité avec nous, une rencontre continuellement approfondie. Il faut prendre toujours plus conscience de tout ce qu'exige la communion à laquelle Jésus nous appelle. Elle exige particulièrement une confession régulière pour préparer le cœur à accueillir un hôte si éminent. Elle implique de savoir se déplacer. On parle de manque de prêtres en France, le pays où nous nous trouvons actuellement. Et pourtant, en Afrique, des fidèles font habituellement 2 heures de marche pour aller à la messe. En France, jusqu'à présent, on trouve une messe à moins de 30 kilomètres. On prend bien la voiture pour aller voir un match, pour aller au cinéma, au marché, faire ses courses. Qu'est-ce que l'Eucharistie signifie pour moi? N'y a-t-il pas là une source de réflexion pour une vérification de notre rapport envers Jésus? Est-ce que nous le considérons vraiment comme le Fils de Dieu, notre Sauveur? La communion peut aussi s'envisager dans notre rapport avec la présence de Jésus dans le tabernacle. En dehors de la messe, nous pouvons honorer Jésus dans le Saint-Sacrement de son corps en priant devant un tabernacle, ou par une exposition du Saint-Sacrement, ou encore par une procession. Notre pape, Jean-Paul II, nous disait cette phrase très belle: « La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur. » C'est vraiment un expert en adoration qui nous parle. Le pape Saint Jean-Paul II priait beaucoup, malgré un emploi du temps chargé. Réécoutons ce qu'il vient de dire. La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur. Des proches de Jean-Paul II rappellent que lorsque, dans des appartements pontificaux, il allait d'un endroit à un autre, assez facilement il passait devant la chapelle et toujours il s'arrêtait, saluait l'hôte princier royal qui y demeure et qui nous attend. Comment témoigner de la foi en l'Eucharistie, pouvons-nous nous demander? L'Eucharistie présente dans le tabernacle? Eh bien, si nous avons la grâce de passer devant une église où il y a la présence réelle, au moins faisons une petite visite. Notre Père fondateur a mis dans notre règle une préférence pour que notre prière en silence, nous ne la fassions pas tout seul dans une cellule, mais plutôt devant le tabernacle. Pas devant l'image de Jésus miséricordieux, très belle par ailleurs, mais devant Jésus présent réellement dans son Saint-Sacrement. Il a aussi souhaité que nos offices soient chantés devant le tabernacle en honneur. Si nous nous occupons d'enfants, de petits-enfants, de filleuls, venons avec eux prier Jésus un moment dans une église, une chapelle, surtout si elle est proche. L'idéal de communion. L'Eucharistie nous fait vivre un temps de communion avec Dieu. Il nous tourne aussi vers notre prochain. Les disciples d'Emmaüs, une fois que Jésus a disparu à leurs yeux, aussitôt repartent voir les autres disciples avec les saintes femmes et les apôtres dans le cénacle. Ils ne gardent pas cela pour eux. La première communauté chrétienne, qui était surtout composée de personnes qui avaient été enseignées par Jésus, même si certains s'étaient convertis après sa mort et sa résurrection, est un modèle pour toutes les générations de croyants. Jean-Paul II souhaitait une démarche de vérification. Poursuivons notre réflexion. Où en est la communion dans notre Église? Dans l'Église où je vais à la messe? L'Eucharistie est source de l'unité de l'Église et aussi sa plus grande manifestation. À la sortie de l'Église, après avoir prié ensemble, il devrait y avoir de la sympathie, de l'ouverture, du pardon quelquefois, de la cordialité, de l'entraide. Cette unité devrait grandir vers ce qui est le plus profond, l'unité dans la foi, l'amour du Christ, l'adhésion de tout son cœur à l'Évangile. Nous sommes appelés à chaque messe à nous mesurer à l'idéal de communion que le livre des Actes des Apôtres propose comme modèle pour l'Église de toujours. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 42 à 47. Les premiers disciples étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain, donc c'est sous ce nom qu'on désignait la messe à ce moment-là, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Et nous trouvons aussi à un autre endroit une belle présentation, chapitre 4, versets 32 à 35. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Donc les deux versets se suivent et on a l'impression, et c'est sans doute voulu, que l'unité produit le témoignage puissant des apôtres et l'abondance de la grâce sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Le Seigneur nous invite, à travers cette impulsion eucharistique donnée pour le troisième millénaire, à nous rapprocher de cet idéal, un seul cœur et une seule âme. Cela devrait déboucher aussi sur une manière de vivre le jour du Seigneur comme le Seigneur des jours, d'une manière vraiment sanctifiée, comme le demande le commandement dans l'Ancien Testament, et puis cette manière renouvelée chrétienne de vivre le jour du Seigneur, marquée par la résurrection du Seigneur Jésus. Demandons la grâce de mieux le vivre, et pour cela nous pourrons nous reporter à une lettre donnée par Saint Jean-Paul II sur le jour du Seigneur. Nous ne pouvons pas tout approfondir aujourd'hui, c'est une piste qui pourrait être reprise une autre fois. Quatrièmement, l'urgence du témoignage. À son encyclique donnée en 2003, l'Église vit de l'Eucharistie, Jean-Paul II avait donné ce titre significatif. Depuis la première Pentecôte, le Saint-Sacrement accompagne l'Église, le peuple de Dieu, dans son pèlerinage vers le ciel, la patrie céleste, en la remplissant d'espérances confiantes. La rencontre eucharistique avec le Christ soutient l'Église, la nourrit. Il y a donc une vie. Elle suscite aussi l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Comment ? En vivant dans le quotidien les attitudes que l'on apprend pendant l'Eucharistie. Les attitudes de Jésus doivent devenir celles du chrétien. L'attitude dans l'Église, le dimanche principalement, doivent inspirer nos autres attitudes pendant la semaine. À la prière, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, nous répondons Amen. C'est-à-dire une adhésion. C'est un mot qui en hébreu est lié à la stabilité de la foi. Cet Amen est le plus important de toute la messe. Il faut qu'il passe dans notre vie. Notre pape Jean-Paul II nous appelait donc à assimiler les valeurs de l'Eucharistie, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. Dans cette lettre du 7 octobre 2004, qui nous sert de base, Saint Jean-Paul II propose trois. On propose trois. D'abord, l'action de grâce, tellement à l'inverse de l'autosuffisance dans la vie quotidienne. La réalité humaine, explique-t-il, ne se justifie pas sans la référence au Créateur. La créature sans son Créateur s'évanouit. Donc, remercions Dieu. Eucharistie signifiant action de grâce. Cela devrait nous conduire à un merci permanent. C'est un encouragement à porter haut les signes de la foi comme des signes de notre reconnaissance au Seigneur. Mettre la croix en vue n'est pas de l'intolérance. Un chrétien qui apprend à dire merci à Dieu à la manière de Jésus pourra être martyr, mais ne sera jamais un persécuteur. Et donc, le fait de manifester notre reconnaissance à Dieu par certains signes et attitudes extérieures est très bon et est une forme aussi de témoignage. Et troisième proposition, la voie de la solidarité. L'Eucharistie n'est pas seulement une expression de communion dans la vie de l'Église. Elle est aussi un projet de solidarité pour l'humanité tout entière. Rappelons-nous que l'Eucharistie se termine par un envoi. Elle nous invite à être artisans de communion. Elle nous apprend le dialogue. C'est tout simple, mais pas toujours facile. Artisans de paix, de solidarité, dans toutes les circonstances de la vie, et en particulier au service des plus petits. Un engagement effectif dans l'édification d'une société plus équitable et plus fraternelle qui puisse bouleverser tous les critères de pouvoir grâce aux critères de service. En s'agenouillant pour laver les pieds de ses disciples, Jésus explique sans équivoque le sens de l'Eucharistie. Et saint Paul associe Eucharistie et partage concret avec les plus pauvres. Que cela nous fasse réfléchir au drame de la faim dans le monde, à la solitude des personnes âgées, aux chômeurs, aux tribulations des immigrés et de ceux qu'on oblige presque à quitter leur pays du fait de l'injustice des marchés au niveau international. C'est à l'amour mutuel et en particulier à la sollicitude que nous manifesterons à ceux qui sont dans le besoin que nous serons reconnus comme de véritables disciples du Christ. C'est un critère important qui prouvera l'authenticité de nos célébrations eucharistiques. Concluons. Dans sa conclusion, Saint Jean-Paul II ne demandait pas que l'on fasse des choses extraordinaires, mais que toutes les initiatives soient empreintes d'une profonde intériorité. que nous contemplions le visage de Jésus Eucharistie avec notre cœur. Et il lançait surtout deux appels, que nous vivions mieux notre messe du dimanche, que nous préparions cette rencontre avec Jésus pour qu'ensuite nous soyons témoins, et que nous sachions donner du temps à l'adoration en dehors de la messe. Nous pouvions aussi, et Jean-Paul II l'a rappelé à d'autres moments, nous pouvions nous tourner vers la Vierge Marie, qui est la femme eucharistique par excellence, en rendant grâce au Seigneur avec son propre cantique d'action de grâce. Magnifique est le Seigneur, magnificat. Avant de terminer, nous pourrions maintenant faire une prière que nous adressons à Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, vous avez souvent proclamé, comme le dit Saint Jean, que le cœur de Dieu est plus grand que notre cœur. Par vos années de pontificat, vous êtes devenu le pape de l'accueil. Vous avez rencontré et aimé les êtres humains au-delà de toutes leurs différences. Par cet accueil inconditionnel qui a démontré la gratuité et l'éternité de l'amour de Dieu, vous nous avez invités à demeurer fidèles aux appels de son cœur et à continuer à grandir dans la sincérité en devenant des chercheurs de la vérité. Venez nous apprendre à accueillir l'autre à la manière de Dieu, en l'aimant sans rien attendre en retour. Vous, Saint Jean-Paul II, qui vous êtes fait le défenseur de la vie, des petits et des pauvres, à la suite de Jésus, venez présenter au Père l'intention, la demande que je porte. Venez m'aider à bénir Dieu sans cesse, à le remercier de ses bienfaits, à me laisser habiter par son amour fidèle et éternel, et à suivre Jésus jusqu'à l'extrémité de l'amour. Amen. Nous nous donnons rendez-vous au mois prochain pour poursuivre notre approfondissement de toutes les grâces que nous a données Saint Jean-Paul II à travers son enseignement si lumineux.